I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, on se tient au jus.
Salut, c'est Camille et Justine. Bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Camélia Jordana et on boit un petit jus de fraise.
Salut.
Et les amis, alors à l'heure où on tourne, on est encore en décembre, néanmoins à l'heure où vous écoutez.
Eh bien, c'est la nouvelle année 2025.
Bonne année.
Bonne année, bonne année mes belles.
Et bonne santé.
Et ah, espérons oui, la totale, que ça va être une bonne année.
Ouais.
Mieux que 2024
ouais. Inch.
Ouais, vraiment. On sait pas encore tout à fait comment ça s'est fini 2024,
mais bon, mal. Jusqu'ici, c'était pas...
C'est ouais. Pas la teuf.
Imagine là.
Parce que là, on est le 14 décembre, imagine les deux prochaines semaines.
Que des trucs bien.
Que du genre Darmanin démissionne.
Ouais, Emmanuel Macron, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Il est arrivé, mais il a dit non, le monsieur.
Manu, il
non, merci. Il a dit non, merci.
Il a dit non, ça va.
Tu restes.
Je te garde.
Tu restes à mes côtés.
J'aime bien.
Non, donc voilà, on espère une bonne année 2025 pour tout le monde.
Oui.
Et on est trop contente d'être avec toi.
25, 24, 24.
2024
ou 25
donc, tranquille, Justine.
On est en 2000 combien là?
On est en 23 là.
Ah!
Bon, ah, t'avances trop vite, t'avances
yes.
Trop vite.
Ah oui, c'est vrai.
Elle est folle.
Mais yes. Et moi aussi, je suis trop contente d'être avec vous, les filles.
Oui.
Merci infiniment.
Depuis le
pour
temps
cette invitation.
Qu'on se rencontre enfin, ça fait
oui,
longtemps qu'on se
c'est
suit
trop bien.
Sur
oui.
Les réseaux.
Oui.
Et nous voilà,
IRL.
Ça qui connaît pas Camélia Jordana ici? Eh ben, c'est parti pour la croustille. Camélia, c'est comme chanteuse. Elle a participé à La Nouvelle Star en 2009 et a sorti 5 albums entre 2010 et 2023.
A comme actrice, elle a joué dans une vingtaine de films et elle a même remporté un César, oui oui, pour Le Brio en 2018.
M comme magnétique. On n'est pas là pour parler physique, mais il faut bien avouer qu'elle est sublime et charismatique comme tout.
Et vous êtes trop mignonne.
E comme engagement, elle prend régulièrement position sur des sujets de société, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Nous, au contraire, c'est une des raisons pour lesquelles on l'aime tant.
L comme Lost, son album qui a remporté le prix d'album de musique du monde en 2019 aux Victoires de la musique.
I comme Irrésistible, la dernière série Disney dans laquelle elle joue le premier rôle.
Et A comme Avant que les flammes ne s'éteignent, le dernier film dans lequel elle a joué au ciné qui parle des violences policières, un sujet qui lui tient fort à cœur. C'était Camélia.
Il y a bien
salut.
Plus à dire. Mais...
Salut.
Coco.
Qui porte le nom d'une fleur, ni plus ni moins. Camélia,
ouais.
C'est une fleur, on est d'accord.
Ouais, ma mère, elle a fait simple, quoi.
C'est trop beau.
Et mon père. Trop marrant.
C'est hein. Une ref à la dame aux camélias.
Mais même pas, je même crois. Pas. En fait, c'est juste que j'ai des parents un peu fous. En vrai, et que du coup, écoute, en fait, mes parents ont 3 enfants et chacun des enfants a un prénom lié quand même kind of à une religion différente.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que ma sœur a un prénom complètement juif qui est Sarah Rebecca.
Ok.
Bon, plus,
oui, oui,
donc
oui,
on peut pas faire
juif.
Plus, quoi. Voilà.
Ouais.
C'est quand même très très juif. Moi, je m'appelle Camélia Jordana, donc Jordana, c'est quand même en lien avec le journal à Cisjordanie. Et je crois que je devais m'appeler peut-être Maeva Johanna, puis c'est devenu Jordana Camélia, puis Camélia Jordana. Parce que c'est mon prénom composé.
Ah oui, c'est vrai que c'est ton prénom composé, Camélia Jordana,
oui,
en fait,
madame.
Je me souviens de ça.
Et mon petit frère, lui, a le prénom, enfin un peu l'équivalent de Jean, ou de Thomas, ou de Nico, en hindi, qui est Satyam.
Mais parce que tes parents, ils sont algériens ?
Parce que ma mère, alors, bah, mes parents...
Ils sont pas...
Bon.
Alors, c'est compliqué.
Non, c'est pas tant que ça, mais c'est intense en tout cas. Mes deux parents sont nés en France, leurs origines sont d'Algérie, du côté de mon père de la Kabylie, du côté de ma mère d'Algérie, puis du Maroc. Mmh. Et ma mère, qui est une femme absolument folle, elle est tout aussi folle que extraordinaire et magnifique, nous a sensibilisés. En fait, elle était très... Elle est pleine d'amour, elle a grandi dans l'islam et puis on avait des amis juifs avec lesquels on a passé toute notre vie quand moi j'étais gamine. Et puis donc on faisait Shabbat ensemble toutes les semaines, elle faisait l'Aïd avec nous. Et puis quand elle est tombée enceinte de mon petit frère, elle a voulu accoucher naturellement. Ça faisait des années qu'elle s'intéressait beaucoup à la naturopathie, etc. Au yoga, à la totale, au reiki et tout. Et en fait elle est partie dans le bouddhisme, mais genre très sérieusement, d'où Satyam. Et puis entre temps, elle a fait encore plein d'autres trucs. Enfin, elle s'amuse bien, quoi.
Oui, donc c'est très,
adore, ouais,
très mélangé,
ouais.
Très mélange de culture. T'as grandi là-dedans.
Exactement. Hyper spirituel, tu vois. Très branché spirituel. Mais avec 1000 cultures, 1000 religions, 1000 croyances qui se croisent. Trop belle, quoi.
Excellent.
Et, ouais.
Du coup, tu connais, enfin, t'en connais plusieurs et...
Ouais. J'avoue que le christianisme, je le connais pas trop parce que j'ai pas grandi avec ça, du coup. Mais j'adore parce que comme j'ai des potes qui ont kind of grandi là-dedans, qui sont pas forcément très pratiquants ou quoi, mais qui ont quand même une tendance à... Ouais, qui sont baptisés, tout ça. C'est trop cool parce que du coup, je peux leur poser plein de questions. Parfois, ils évoquent des choses que je connais absolument pas, dont j'ai jamais entendu parler et tout. Et j'adore.
Et toi, t'es pieuse, c'est ça qu'on dit?
Moi, je suis agnostique. Ouais.
Okay. Donc, agnostique, ça veut dire que tu crois en une force, mais c'est pas...
En fait, c'est exactement ça. Je crois
c'est
en
pas une
force,
religion spécifique.
Mais c'est... Ouais, j'ai pas envie de la rattacher à un livre. Justement, comme j'ai eu la chance de grandir avec tellement de croyances, tu vois, tellement de nourriture, quand ça j'étais gosse. Ouais, et en fait, bon, j'avoue que quand j'en parle avec des potes qui sont de différentes confessions et tout, en fait, je me rends compte qu'il y a quand même, ouais, il y a à la fois des trucs de l'islam, à la fois des trucs du judaïsme, parfois des trucs du bouddhisme. Enfin, vraiment, je pioche un peu à tous les râteliers, quoi. C'est un peu marrant, quoi.
Ouais, c'est trop bien. Je trouve qu'on devrait, n'importe quoi, de donner des grandes vérités, mais moi, je trouve qu'on devrait être soit athée, quand t'as pas, touché par la foi, soit agnostique. C'est vrai que ça me parle plus. Parce que j'aime l'idée de la liberté de t'être intéressé. Mais bon, parce
que ça dépend comment tu grandis, dans quelle culture tu grandis.
Après, tu te rattaches, quoi.
J'avoue, moi, j'ai des potes qui sont vraiment religieux, tu vois, qui sont vraiment croyants, qui sont pratiquants et tout. Et en fait, ça me touche. Énormément. Parce qu'il y a un truc de... Tu vois, un peu comme nous, les essais féministes, quoi. Bah, en fait, eux, dans leur Coran, ou dans leur Bible, ou dans leur Torah, en fait, ils trouvent un truc...
ça leur parle directement.
Qui est un guide dans la vie, quoi. Oui. Tu vois, qui les sauve. Comme nous, en fait, on va lire des femmes extraordinaires et se dire, mais mon Dieu, merci d'avoir théorisé tout ça et de nous donner des outils pour affronter le monde dans lequel on vit.
Ouais, c'est
vrai. Bah, en fait, c'est vraiment ce rapport-là. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont à la fois. Et moi, c'est l'un des rapports qui me touche le plus parce que j'avoue que sur le papier, la religion, je suis un peu genre...
Il y a du négatif.
Il n'y a pas tout à garder quand même, finalement. Ou en tout cas, venez, on fait une petite adaptation contemporaine, un truc, tu vois, venez, on s'en parle. Mais en même temps, j'avoue que voilà, le concept de la foi, en fait. Je sais pas vous, mais moi, dès que je voyage, j'essaye d'aller dans des lieux cultes. Enfin, ouais, voilà, par exemple, tu vois, de rentrer dans la belle église du coin ou dans l'église du village ou voilà, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et en fait, on va pas se mentir, il y a toujours ce truc qu'on ressent quand on rentre dans une église. Et moi, de me dire, mais la foi fait faire des choses à l'humain.
Bah, le bon comme
qu'on
le mauvais.
Qu'on ressent, ouais, tu vois. Vrai, et et le fait de me dire qu'il y a des gens qui mettent de l'amour là-dedans et que ça les aide à penser que c'est une chose qui les rend meilleurs, qui les cadrent, qui les calment, qui les apaisent, que ce soit les personnes qui vont prier 5 fois par jour et qui se donnent rendez-vous avec leur Dieu, ou les personnes qui vont à la messe 1 fois par semaine et qui vont avoir... tu vois, une idée en tête qui va guider leur semaine ou que ça va, pour lesquelles cette pensée va apaiser, tu vois, les blessures de la semaine passée. Enfin, je trouve ça sublime, quoi, vraiment.
Non, mais je comprends. Ça
vous êtes quoi, vous?
Je trouve ça
plutôt athée.
On est athée, ouais.
Mais, super athée. Athée,
non, mais plutôt, on a grandi là-dedans aussi. Enfin, oui. Moi, j'ai grandi vraiment avec des parents athées. Athées, quoi.
Non, mes parents, ils ont grandi dans on va dire, le catholicisme classique français lointain, tu vois.
Okay. Bon, ma mère, full athée, avec des parents hippies et tout, enfin vraiment, il n'y a jamais été question de religion. Et mon père, à l'inverse, a été obligé d'être chez les curés et compagnie quand il était petit, et ça l'a traumatisé. Donc, du coup, lui, c'était genre tout le monde est athée ici, d'accord. Un peu. Donc, bon, voilà, c'est plutôt à l'inverse, mais en fait, ça dépend tellement des expériences
bien sûr,
que tu as et de comment éducation. Tu grandis. Ouais. Mais j'ai des potes très croyants de religions diverses et variées, et je trouve ça très touchant aussi. Enfin, je rejoins ce que tu dis, je trouve ça beau. Que ça ait l'air de les satisfaire à ce point. Enfin, je trouve ça beau, quoi.
Ouais, ça leur fait vachement de bien, quoi, j'ai l'impression. Enfin, en fait, j'avoue, comme moi...
C'est le but, quoi.
Très chiant à dire.
Agnosticité.
L'agnosticisme. Cité ou si, on sait pas. Hein.
Aucune.
L'agnosticisme, non.
Ouais, l'agnosticisme pour cette fois. Désolée, c'est pas le bon mot, les amis. J'avoue, moi aussi, tu vois, me fait ce truc où, en fait, c'est une chose qui, moi, me centre et me fait avancer, tu vois, dans les moments de lumière comme dans les moments hyper durs. Non, par contre, c'est pas possible, pardon.
Qu'est-ce qu'elle fait?
Qu'est-ce qu'elle fait, Minette? Là, elle est littéralement comme ça.
Ouais. Bah, ça, c'est...
Genre, la meuf est un niveau de mignonnerie.
Elle met... ça, c'est Minette qui, du coup, est juste à côté de Camilla Jordana et qui met sa patte par-dessus ses yeux. Et pour moi, quand elle fait ça, c'est qu'elle veut pas entendre l'actu. Enfin, c'est... Moi, j'aime trop la voix de la
phrase. Non, mais cette chat, c'est
elle
pas possible.
Elle te
séduit, là. Ah ouais.
Un cinnamon roll, là. Elle est vraiment en mode petit roulé.
C'est exactement ça.
J'adore.
Bon, alors, pour recentrer, parce que moi, la mignonnerie des chats, bon, vous savez, ça me passe.
Oui, voilà.
voilà, et la religion aussi.
La religion, bon,
par
voilà.
contre, la nouvelle star. Par contre, voilà, la nouvelle star, ça, c'est mon dada.
Non, mais parce que
la meuf qui regarde encore la Starac en 2020.
S'il vous plaît. Et la nouvelle star revient, je vais regarder. Enfin,
ah, ça on sait revient, qu'il y a dans la nouvelle
star. Je veux dire, c'est, pardon, j'ai mal fait
si
la ponctuation.
La nouvelle star revient.
Si la nouvelle star revenait, je reviendrais direct.
Ah ouais, bah ouais.
Mais s'il y a un jury, j'espère que c'est toi même.
Ah, ma mère.
Mais donc, toi, on parle de. Donc, tu grandis dans ce milieu et en vrai, tu chantes dans ta chambre parce que tu fais la nouvelle star à 16 ans, genre.
Partout.
T'es trop petite normalement. On fait pas des émissions de télé. Ouais. On jette le charbon.
Bah,
raison. À bah, l'époque,
c'est chaud, hein. C'est chaud. Non, je chantais partout. Mais partout, tout le temps. Je chantais même en classe et je m'en rendais pas compte. Genre, mais je ne m'en rendais pas compte.
J'imagine l'enfer. Le prof. C'est quoi ce bruit de fond?
Ah ouais, l'enfer. Non, mais je me faisais punir et tout. C'était un truc de ouf.
Mais bien sûr.
À 16 ans. Mais bien sûr. Et vraiment, c'était chaud. Ma tante chérie adorée, qui a une fille, qui est donc ma cousine Germaine, on a 3 mois de différence. On était des jumelles quand on était gosses, quoi, vraiment. Et je disais, s'il te plaît, tout, je viens dormir chez vous. Et elle me disait, ok. Mais tu ne chantes pas. Et je disais ok. Et on prenait, je me rappelle, ma tante Karima et ma cousine Miliana, je les embrasse très fort. On prenait le Kangoo bleu de ma tante Karima. On n'avait pas passé le portail que j'avais déjà chanté. Camélia Vraiment, je chantais tout le temps et je ne m'en rendais pas compte. Mais toujours. Hein,
c'était ta respiration, quoi.
Ouais, c'était mon moyen de dire des choses.
Et donc, quand tu t'inscris, pardon, tu t'inscris à Nouvelle Star, comme ça, un peu au culot, ou vraiment tu crois fort
professionnel. Hein. Le petit secret, c'est que ma sœur a passé l'audition 2 ans avant moi, du coup.
Ok.
Qu'elle n'a pas été prise dès le premier tour, ce qui est fou, parce que par ailleurs, ma sœur chante sublimement, mais genre, c'est chaud.
On aurait pu avoir vraiment. Deux. Bah, j'allais dire Jordana, mais non, ta sœur, elle s'appelle pas.
Sarah Rebecca, du coup.
On aurait pu mais avoir deux stars dans la famille.
Mais une folie. Non, mais vraiment, elle chante Sarah, quoi. C'est chaud. Après, je pense que peut-être qu'elle n'était pas là où. Enfin, voilà, artistiquement, elle n'était pas. Elle n'assumait pas autant sa voix que ce qu'elle l'assume quand elle chante aujourd'hui, par exemple. Bref. Et quand on l'a emmenée, ma cousine, ma sœur, ma mère et moi, pour l'audition à Marseille. Elle n'a pas été prise et du coup, j'ai fait promettre à mes parents que moi, quand j'aurai 16 ans, on m'emmènerait aussi. Quoi.
Ouais.
C'était
mais
le bah
oui.
deal.
Oui.
Genre, mais attends, moi, ça existe depuis que j'ai 7 ans. Je connais tous les lauréats, je connais tous les candidats, les candidates. Je suis complètement au taquet. Please, à 16 ans, je suis devant Dédé. Quoi, tu vois.
Attends, quand t'as 16 ans, ça existe depuis 7 ans déjà, la nouvelle star?
Bah donc oui, parce aussi, que moi, j'ai la même
mais oui, parce que 91 aussi
12, ouais.
92, ouais.
À côté.
Ça faisait déjà quand on était petite.
Mais oui, parce que regarde, moi, j'ai fait la saison, je crois que c'était la saison 7 ou 8,
ah,
tu vois.
Ah ouais.
Mais ouais.
Oh là, ça date.
Mais ouais.
Choqué.
Mais même nous, on date, en fait. C'est ça l'info folle. C'est ça l'info folle, c'est que c'est nous qui datons, en fait.
C'est vrai. Est-ce que t'as fait la même saison que Pyjama, Pauline? Ou pas?
Ah non, je pense que c'était plus tard, Pauline, parce que moi, je l'ai connue après par Pomme, Pauline.
Ah, je croyais que vous étiez dans la même
saison. Non, moi, je l'ai fait l'année après celle de Benjamin Sixou et tout.
Ah oui, bah, je pense que c'est la première que j'ai vue, Benjamin Sixou.
Il était sexy coup, comme tout, je me rappelle.
Oui, il était petit, j'étais là. Oh,
il est toujours, bah oui, bah, bien sûr.
Il aime pas les filles.
Ah oui.
Non, c'est vrai qu'il n'aime pas les filles.
J'étais triste. Enfin,
il aime les filles.
Ah merde.
J'étais triste comme si, sinon j'allais le serrer.
Ouais.
Il y a que ça qui nous sépare.
Très bien. On en profite d'ailleurs pour dire qu'il vient de sortir un nouvel album que je n'ai pas encore écouté, mais comme c'est un artiste de ouf, les gens n'hésitez pas à l'écouter parce que quand même, c'est trop. Très aux couleurs de ta veste et de ton sublime maquillage d'ailleurs.
Incroyable. Je suis dans le violet en ce moment.
Mais oui.
Violet paillettes rose.
Très beau. On adore. Et c'est exactement l'ADA. D'ailleurs, c'est la sublime Inès Longevial qui lui a fait sa cover, la peintre sublime.
Ah de Benjamin. On est toujours sur Marie.
Ah oui.
Ah oui. Ah je vais trop voir. Ça me donne envie.
Bah donc tu peux le contacter maintenant. Bah,
allez, je lui dis je suis à tes couleurs.
Ouais, donc change
de
bord,
merci. Pardon, oh là là, allez, on fait trop de digressions. Oh là là, on est trois digresseuses, ça va être.
Trois digresseuses, ça va être un tour.
Donc attends, donc tu reviens à 16 ans avec tes parents, promesse tenue.
Ouais. Et oui, et puis en fait.
Mais tu te dis je veux être chanteuse. En fait, c'est évident pour toi.
Non, mais
en fait,
moi, depuis que je suis née, je rêve d'être chanteuse et actrice. Mais je grandis à La Londe les Morts.
Je connais pas.
Voilà.
Ce nom déjà.
Il y a les morts.
C'était dans l'intitulé. Alors. En vrai, quand t'es du Sud, tu dis la Londe les Morts. Mais en vrai, les Parisiens et Parisiennes diraient les Morts.
Mais t'as pas du tout d'accent du Sud.
Mais c'est le seul mot que je n'arrive
pourquoi
pas à dire en
normal.
M-A-U-R-E-S.
Ah,
et
bah
comme moi, Saint-Maur, oui, je viens de Saint-Maur.
Mour.
Non, mais toi, Saint-Maur, c'est M-A-U-R.
Oui, et toi?
M-A-U-R-E-S.
Ah,
Saint-Maur. En fait, c'est les Morts, les Morts, les Morts.
Oui, les Morts, la...
Les
la...
comme moi, là.
Ouais. Oui, les... Elle a fait vraiment la main
le geste du visage de les gens racistes qui ne veulent pas dire...
Voilà, les Morts, tu sais, il est un peu... Les Morts, c'est, vous savez, c'est Othello. Othello, par exemple, de Shakespeare, c'est un mort.
Exactement.
Donc ça veut dire qu'il n'est pas blanc. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est un scandale quand c'est Philippe Torreton mes deux, là.
Quand c'est Gérard Darmon qui l'a joué en faisant une blackface, non? C'est pas ça, l'histoire?
Je confonds tout.
Non.
beau, j'en sais rien, mais Gérard Darmon, il est pas blanc.
Fait blackface. Bah
non, il a fait une blackface. Non, il est pas blanc, mais il a fait une blackface.
Oui,
blanc,
comme la moitié.
Parce qu'il est pas noir, hein, donc, au passage, effectivement.
C'est fou cette histoire. Ça date. Ouais.
C'est passé un peu sous le.
Et du coup, ben ouais, j'avais 16 ans, c'était improbable, j'ai fait promettre à mes parents. Une semaine avant, ma mère, qui a donc beaucoup de talent, m'a quand même dit une semaine avant, aussi parce qu'elle est folle, m'avait puni sans raison et m'avait dit tu n'iras pas du tout passer ton casting.
Oh non, ouais. Oh non, l'horrible horrible. Punition.
Horrible, horrible.
Et ta carrière, hop, sous le nez, terminée.
Ma mère a eu des punitions, vraiment des idées sournoises. Vraiment des trucs où tu dis mais ça n'est pas une punition normalement. Bon, elle pense à la super idée de la punition du casting et elle a cette formule délicieuse dont je me souviendrai toute ma vie. Ton histoire n'a même pas commencé qu'elle est déjà finie.
C'est horrible.
Punchline.
Wow.
Ouais. Donc moi, en plus à ce moment-là,
dans une rappeuse,
elle a un container. Non mais laisse tomber, elle a tué le game, quoi. Vraiment, genre. Et du coup, elle est arrivée, elle m'a dit ça, j'étais genre yes, ok. Moi à ce moment-là, ça allait pas, machin. J'avais pas trop de potes. Le seul pote que j'avais à ce moment-là, des meufs. En fait, c'était un mec archi sexy. Et on était les deux seuls potes de la classe. Il y avait un autre mec avec nous, Nils. Et en fait, ce qui s'était passé, vraiment un truc de cours d'école, de lycée, de quand t'as 16 ans. Et en fait, comme il était trop sexy, toutes les meufs de la classe avaient le seum qu'on soit amis. Et donc, étaient venues lui raconter que j'avais dit des dingueries sur lui, mais des trucs qui ne m'auraient jamais même. Enfin, j'aurais même pas eu l'idée de mentir et de raconter ça, tu vois. C'était à base de ouais, il a peut-être le sida parce qu'il couchait avec tout le monde, je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs de ouf.
Mais par loin, hein.
Ouais, genre, il est trop gay, il consomme de ouf et tout. Enfin, bref, trop bizarre. Et en fait, c'était fait par une meuf qui était censée être un peu une pote, tu vois. Donc, j'étais genre, ouais, trop chelou. Et en fait, il a cru à ça, époque MSN, tu connais. Il m'envoie un copier-coller du MSN, j'étais genre, what.
Ce qui paraît, t'as dit ça sur moi.
Voilà, donc il était genre, par contre, t'es sympa, mais du coup, on va arrêter de se parler parce que ça va. Et moi, j'étais genre, mais non.
Lolita, malgré moi, vraiment.
Oui. Et à ce moment-là, j'étais genre, oh mon dieu, mais en fait, je l'aime. Donc genre depressed as fuck. Et du coup je dis à ma mère, je t'en supplie, il n'y a rien qui va dans ma vie en ce moment, s'il te plaît, laisse-moi juste un truc, c'est le casting. Et donc elle tient et jusqu'à la veille au soir de la dite date, mon père rentre du taf hyper tard. Moi, je suis en train de me lisser les cheveux comme toute ma vie parce que tu comprends, je suis arabe et que j'ai peur d'exister un quart de seconde en tant qu'être humain. Et du coup, je check mon brushing à minuit devant ma glace au lieu de genre dormir comme les autres petites filles pas arabes et pas traumates. Et en fait, il vient et il me dit « Mais t'es prête pour demain ?» Parce qu'il est tard, là. Je dis « Bah, comment ça ?» Il me dit « Bah, tu passes pas ton casting ?» Je lui dis « Bah non, je suis punie. » Il regarde comme ça, il va voir ma mère, en fait je les crame et ma mère lui dit putain mais je voulais lui faire la surprise, je lui dis mais il est minuit là,
un film,
je crois qu'il est temps, tu vois,
un film.
Et donc j'ai passé la nuit sur l'ordi, le PC,
bah oui,
familial
bien sûr,
à regarder toutes les vidéos de tous mes idoles de l'époque.
Ah mais du coup attends, tu sais pas quelle chanson tu vas faire?
Bah non, puisque c'est la veille au soir et que
mais
je suis
c'est, mais c'est
semaine.
Horrible
mais oui, tu y avais pas pensé depuis des années.
Ouais mais bon,
mais pas du tout.
Donc tu cherches ta chanson là.
Donc là, je cherche ma chanson. Je passe la night entière sur le PC familial et je choisis ces deux chansons, What a Wonderful World,
oui, voilà.
Et Quelqu'un qui m'a dit.
Incroyable de choisir Quelqu'un qui m'a dit.
Incroyable. Et sublime chanson en même
ouais,
temps.
En vrai, oui.
En vrai, sublime
oui,
chanson.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. En et puis vrai. Au moins, avec quelqu'un qui a des cordes vocales, ça peut être cool.
Non, mais
tu sais, elle le fait bien,
Carla
Bruni. Mais...
Elle chante sa race. En vrai.
Ah bah, elle chante sa race. Tu veux dire quoi?
Ah bah, je trouve qu'elle chante hyper bien, cette femme.
Oui, dans son style. Okay.
Dans le style Vanessa Paradis, quoi. Tout doux.
Mais même Vanessa Paradis, tu sais que Vanessa Paradis, moi, pendant longtemps, gamine, je me disais, ouais, bah, comme Carla Bruni, tu vois, je me disais, c'est des femmes avec des toutes petites voix et tout. Vanessa, je l'ai vue sur scène, j'ai pété un câble, elle chante de ouf. Genre, vraiment, c'est une chanteuse de dingue.
Ouais.
Pour de vrai.
Okay. Ouais, trop bien.
Et ouais, non, Carla Bruni aussi, je trouve qu'elle chante vraiment très bien. Alors après, c'est difficile de lui donner de la force rapport à son époux.
Oui, voilà, c'est peut-être ça.
En même temps,
biaise,
notre féminisme. Certaines de ses sorties qui sont quand même vraiment contre le féminisme.
Elle est compliquée. Ouais.
Bon,
non, elle est compliquée.
Mais en même temps.
Non, mais cette chanson est magnifique.
Oui, mais
en vrai,
je trouve
on est d'accord.
Que, alors, cette chanson est magnifique. Et puis, elle en a d'autres. Et c'est quand même. Enfin, je sais pas vous, moi, c'est comme la prostitution, tu vois. C'est-à-dire que c'est des sujets où en fait. Mon féminisme est vraiment
paradoxal.
Oui, c'est-à-dire que c'est pile à deux endroits. C'est-à-dire que en même temps, bah, la meuf en fait est une mannequin internationalement reconnue. Mm-hmm. C'est une femme sublime qui a eu énormément de pouvoir avant d'être la première dame de France.
C'est vrai.
Qui a eu une carrière absolument incroyable.
Qui a ouvert la voie probablement.
Qui a ouvert la voie de dingue.
Qui a réussi
quand elle
à
était première dame
le...
à protéger l'intermittence du spectacle pendant longtemps vraiment. Mm. Donc nous artistes, on lui doit beaucoup. En vrai, mais très sérieusement.
Oui, mais c'est vrai que c'est paradoxal.
Et en même temps,
elle a choisi Nico.
en même temps, elle a choisi Nico, tu vois. Donc,
et elle dit on n'a pas peur du Covid. Non, on n'est pas des féministes.
Vous avez vu cette vidéo. Voilà. Et en même temps, du coup, oui. Mais alors, en même temps, elle a choisi Nico. Mais du coup, notre féminisme à nous, c'est aussi moi, mon féminisme, il me fait me dire. Mais du coup, est-ce que tout ce que j'estime de cette femme, je le fous à la poubelle en fonction de qui elle, avec qui elle couche et avec qui elle fait sa vie? Tu vois ce que je veux dire?
Ça veut juste dire qu'on partage pas toutes les mêmes valeurs et les mêmes idées.
Oui, exactement.
Ça veut quand même juste dire que c'est une meuf de droite qui a des idées pas féministes et du coup, en général, donc oui, on va pas la tacler, mais on n'est pas fan des meufs pas féministes en fait. Enfin,
ah bah non, clairement.
Donc c'est le middle quoi.
Elle est anti-féministe. Au-delà de
pas féministe. Oui, c'est ça en fait, exactement. Elle est anti-féministe.
Elle avait dit des trucs anti-féministes.
Elle dit des choses anti-féministes et elle est, enfin tu vois, c'est pas juste, elle est pas engagée.
Oui, c'est pas juste qu'elle est au taquet, elle est pas au taquet, c'est juste qu'elle est au taquet contre quoi.
Voilà. Il y a l'inverse du spectre.
Ah ouais.
Mais ça ne lui retire pas ce qu'elle a fait. Oui, oui. Et ce qu'elle a. Enfin,
c'est voilà, comme Gérard, ça retire pas que c'est un super acteur.
Gérard Depardieu.
Tout pareil. Tout pareil.
Ça n'empêche pas. Séparons aussi la femme de son mari.
Oui.
Bah, mais non, mais oui. Mais
du coup, pour moi, c'est quand même plus facile de séparer la femme de son mari que l'acteur de son viol.
Parce que c'est la même personne quand même.
Tu vois ce que je veux dire ?
C'est la même personne.
Bah voilà.
Mais oui, ok. Non, mais t'as raison, ok, je comprends. Donc c'est parti pour la nouvelle star.
Pardon, je recadre quand même ça accessoirement.
Parce qu'on venait de là, je suis
attends, fallait l'arbre. Préparer deux chansons pour en chanter une et au cas où ils te disent on veut entendre autre chose, tu
t'as deux. Okay. Sauf qu'à ce moment-là, tu passes devant des gens de la prod. C'est trop marrant qu'on se raconte ça, on est vraiment dans le détail du je suis devant quelqu'un de la prod, je tombe devant Alexandre Dankos, directeur musical, directeur artistique de l'émission à ce moment-là. Je commence avec What a Wonderful World, j'ai les jambes de ma
en
vie.
En coton.
Je ne me tenais pas.
Ouais.
Je ne me tenais pas. J'avais les jambes. Mais c'est la seule fois de ma vie où ça m'a fait ça.
Ouais.
Je vous le jure. Je ne tenais pas. Je sentais dans ma voix, je sentais les vibrations de mes jambes qui ne tenaient pas droite.
Le stress absolu.
Incroyable. Et là, je vois le mec qui est plutôt content et qui me dit, t'en as une autre? Donc, je lui fais, quelqu'un m'a dit, ou l'inverse, je ne sais plus. Et il me dit, ok, c'est super. Bon, bah du coup... non, pardon, mais Mynette, elle me fait des phases, là.
Mynette.
C'est chaud.
Elle s'est mise juste devant toi, tu vois.
Non,
un
mais
show.
Mine, quoi. C'est abusé. C'est un bébé d'amour. Trop d'amour. Trop de béatitude dans cet être.
C'est vrai qu'elle est très calme.
Ah là là. Elle va bien dans cette.
Elle est croyante, c'est sûr. Elle a la foi.
Elle, sûr,
elle est sereine as fuck.
Il y a un dieu des chats là, c'est sûr. Elles, ils sont bien. Et bref, et donc.
Donc ils t'ont dit,
ok, bah, trop bien, reviens le lendemain pour refaire ça et tout machin. Et le lendemain, eh ben, j'étais stressée, mais rien à voir avec la veille pour une raison que j'ignore.
Il y a un premier passage avec la prod.
Et oui, en fait,
pour
c'est ça.
Valider que tout le monde passe pas devant les jurys, sinon ils en verraient trop.
Oui, mais pourtant, il y a des nuls devant les jurys.
Ils font exprès. Ils choisissent aussi des nuls.
Oui, parfois.
Sinon, ils prendraient tout le monde.
Tu penses pendant la prod, ils disent genre, ouais, reviens, c'est bien, alors qu'ils sont nuls.
C'est
oui,
sûr,
c'est ça.
Ah. Mais surtout ceux qui ont des gros lots, ceux qui ont des gros lots dans les cheveux ou des trucs comme ça, qui vont, ils savent que ça va faire un peu des dingueries. Comme Anouké, on va faire des blagues.
Oui, c'est vrai qu'il y avait toujours deux trois stages en banque. C'était drôle, alors que c'est, il y avait des trucs border, putain, quand on retombe dessus.
Mais bon. Et du coup, ouais, donc ça tu reviens le lendemain, t'es prise, tu fais l'émission.
Voilà, je passe l'émission, je suis prise.
Et toi, tu pars en demi-finale.
Exactement.
Alors que t'es la plus grande star.
Troisième.
Non, mais comme quoi,
qui a gagné
Soane.
Soane.
C'était un mec très gothique, un peu. Enfin, je dis gothique, je sais pas si c'est le mot, mais.
Ouais, je sais pas non plus.
C'est du noir sous les yeux, du noir sur les ongles. Mettez des chansons qui va pas bien. Ouais, un peu curieux.
Ouais,
on dirait un peu original. Un original, on va dire.
Un original. Très singulier. Très singulier.
Il était émo.
Un peu, ouais.
Oui, je pense que c'était l'époque, ouais, en vrai. Oui,
un peu, ouais.
Et la deuxième personne, c'était qui?
Leïla, elle s'appelait. Hyper, super, super cool chanteuse qui chantait Kate Bush.
Incroyable, ce
soir. Ah oui. Ouais.
Elle chantait ça, elle chantait Marcia. Enfin, elle était vraiment dans une vibe. Elle était Leïla. Ouais, elle avait un personnage.
Et du coup, après ça, tu sais que ta carrière démarre. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire.
En fait, le soir de mon élimination, juste après. Moi, on me dit, bon, bah, du coup, il y a le grand journal qui veut te voir. Donc, moi, je suis genre.
Ah ouais.
Je n'en peux plus. Genre, j'ai rarement eu autant le trac que pour le grand journal en promo. Normalement, en promo, je n'ai pas le trac. Là, j'avais le trac pour le grand journal. Et en fait, on me donne l'info en simultané. On me dit, tu vas faire le grand journal cette semaine. Donc, moi, à ce moment-là, c'est le truc le plus cool du monde. J'ai 16 ans, je suis au lycée. Je vais être au grand journal, en fait. Pardon. Voilà, c'est le truc où t'as Prince qui allait jouer, tu vois. Et je suis genre, what the fuck. Et derrière ça. Juste après, il y a le manager de l'époque, l'un des deux managers de l'époque qui sont associés à l'émission, qui viennent me voir et qui me disent pendant toute l'émission, pendant que je fais des bisous et des câlins à tout le monde pour leur dire ah, pendant que les gens pleurent, c'était trop mignon. Toutes les équipes sont genre pourquoi c'était genre adorable. Et donc je dis au revoir à tout le monde. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui me suit, mais moi je ne sais pas qui est cette personne. Enfin, je n'intègre pas. Et en fait, c'était Nicolas Voskobonikov, le boss de mes premiers managers, de ma première boîte, enfin, de la première boîte avec laquelle j'ai bossé, et qui me dit au bout d'un moment, bon, écoute, je suis désolée, mais vraiment, il faut que tu, enfin, faut que tu prennes le coup de fil là. Le mec, il attend depuis tout à l'heure. Enfin, tu vois, ils étaient mignons. Je pense qu'ils devaient débriefer, préparer le terrain et attendre sympathiquement, tu vois. Et en fait, il me donne le mec, et le mec, c'est Christophe Lamenière, le boss de Sony Music à ce moment-là. Et le mec me dit coucou. Je m'appelle Christophe Lamenière, je suis le patron de Sony Music.
Ah, il attendait pile ton la sortie pour te
prendre.
On a
beaucoup aimé ce que tu as fait, on aimerait te proposer de faire un album. Et à ce moment-là,
à
je
peine
ne
éliminé,
comprends
quoi.
Pas l'information. Je lui dis ah ouais, ok. Je dis bah écoute, moi là de toute façon dans les 6 prochains mois j'ai rien. Mais très concrète la meuf, quoi. Premier degré, elle passe, elle parle au boss de Sony, tu vois. Genre écoute, là je suis tranquille pour les 6 prochains mois de toute façon. Donc,
tu réalisais
avec
pas.
Grand plaisir. Mais pas du tout. Je pensais au grand journal à ce moment-là, tu vois. Pas à mon album, tu vois. Improbable. Et après, bah voilà, je faisais des allers-retours parce qu'il y avait la tournée des 5 finalistes Nouvelle Star.
Ouais.
L'été qui a suivi.
Attends, mais après, tu rentres pas au lycée ?
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que direct, j'avais
t'es
un contrat.
T'es pas
retourné. Donc, en fait, j'ai quitté l'école.
C'est qui ?
C'est
On dirait Maître Gims.
Maître Gims,
fait.
C'est vrai,
bah oui,
c'est Maître
Gims. Ah, c'est ça ?
J'ai quitté l'école.
Putain, comment j'ai pu
retourner ?
Alors,
savais,
je connais pas.
Tu savais.
Je connais pas les paroles, mais l'intonation que t'as fait, pour moi, c'était Maître Gims.
Ah ouais.
J'ai quitté l'école.
Le mec est chaud quand même, il a une telle patte, t'imagines ? Et juste en faisant ça, t'as capté que
c'est
le mec qui est quand
même très chaud. Il a inventé une tonalité
chaud, genre.
J'ai vu là, Maître Gims, avec les lunettes et tout.
Trop fort.
Ton premier tube, c'est Non 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 ?
Ouais, mais ça a mis du temps. Hein. L'histoire de Non 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 est particulière parce qu'en fait, bon, c'est quand même une chanson très chelou, on va pas se mentir. Il y a des tempos différents, la compo, elle est super. Edgar Fica, il y a genre beaucoup d'accords, des accords pas simples en plus. Edgar Fica et la fiancée qui ont juste. Donc Edgar, il fait les accords. La fiancée fait non, 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 pas la papa, pas la pa, non, 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 non. Derrière, il y a Dorian qui vient écrire un texte dessus. Combien de fois faut-il vous le dire avec je ne veux pas sortir au baron. À l'époque, je ne connais même pas le baron, bah, mais oui. Je le chante. Puis je finis par y aller après l'avoir chanté. Et après, entre-temps, c'est donc Séverin qui arrange le truc. Donc en fait, t'as 4 personnes pour faire une chanson qui en fait est hyper compliquée, mais qui est super, que j'adore.
Qui devient un tube.
Qui devient un tube. Et en fait, le truc, mais genre. Un mois et demi, tu vois, à rentrer.
Ok.
Et un mois et demi, c'est rare pour que ça aille aussi loin derrière, tu vois. Ça, c'est pas bon. Après, chaque chanson a son histoire, mais.
Mais du coup, il y a un truc qui me questionne, c'est que quand on comprend que tu grandis avec en étant connu, enfin, c'est-à-dire que t'es assez jeune, donc tu commences, donc tu connais, à mon avis, les codes, tu les comprends, et pourtant arrive un moment où quand tu prends la parole sur des sujets, enfin, c'est-à-dire que bah tu te prends des shitstorms en face. Est-ce que c'est parce qu'à un moment t'as décidé de le faire? Parce que je me dis que vu que tu as été éduqué dans le star system, désolé de cette expression un peu regarde, mais je dis tu devais être entouré de gens qui t'ont bien dit que c'était pas tout à fait la façon de faire, ou enfin tu vois ce que je veux dire, comment non, quelqu'un en fait... qui démarre à 30 piges avec toute son histoire, toutes ses connaissances, bah tu vois, je peux comprendre qu'elle soit, enfin, moi tu vois, si demain j'ai une méga carrière, imagine, bah je m'en bats les couilles, je vais toujours dénoncer tout ce que je dénonce. Mais toi, vu que tu as été élevé dedans, non mais parce que c'est déjà c'est fait,
moi elle l'a dit, et encore vous avez pas vu sa position dans le fauteuil en disant ça, hein. Bah Maître Gims, on bat les couilles.
Non mais tu vois, et du coup toi, est-ce que c'est un moment où tu prends un virage ou tu le fais pas exprès? En fait, en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt même pas exprès.
Non, enfin, quand tu parles du virage, juste pour contextualiser, on parle du virage où tu dis de manière absolument scandaleuse que tu as peur devant la police. On parle de ce virage-là.
En fait,
c'est de ça dont tu parles.
C'est arrivé de manière vraiment très naturelle, c'est-à-dire que, comme tu dis, j'ai commencé à 16 ans et déjà à cette époque-là, j'étais entourée de gens archi politisés.
Okay.
Donc quand j'allais en tournée, j'étais entourée de mecs, alors qu'ils sont des mecs extraordinaires, des musiciens, des poètes, des artistes, des archanges, et qui à l'époque ont fait un parcours eux aussi depuis, mais aujourd'hui je vois certains trucs qui ont été dits, pas par tous, par certains, qui pouvaient être vus en fait, qui peuvent carrément être vus aujourd'hui comme des trucs misogynes ou racistes ou des trucs comme ça. Donc moi je grandis quand même dans cet environnement-là, qui est quand même avec ces personnes de gauche, qui sont des artistes, qui sont sensibles, qui sont cultivés, mais il y a quand même ça, tu vois, j'ai 16 ans. Ces gens-là sont encore ma famille aujourd'hui, c'est des gens que j'ai dans le cœur profondément, qui ont fait un trajet de ouf et qui eux-mêmes, je pense, ont déconstruit des trucs avec le temps, tu vois, fort heureusement, comme moi et comme tout le monde d'ailleurs, hein, comme nous toutes et tous. Et
enfin, sauf Zemmour, il n'a pas hyper déconstruit.
Non, pas de ouf.
Bref, j'ai une petite parenthèse.
Non, non, bah non, pas non, non,
pas non. Bec BD, peut-être.
Non, non,
non. Non, mais non. La liste va être longue.
On fait plus que ça.
On prend tout le là, jusqu'à la fin du podcast.
Viantes, viantes, on va quoi, ton tiens.
Le premier qui perd, ça peut être un jeu très marrant.
Ça va être un jeu de jeu. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu.
Cite des hommes pas construits.
Coué, coué. Coué, coué.
Bon, bon choix.
Tex, Tex.
Bigard, déconstruit.
PPDA.
Donc t'es entouré d'hommes bien.
T'es entouré plutôt d'hommes qui ont qui dès le début. Oui, mais tu constates dès le début des attaques. Enfin
non, pas du tout.
Pas des attaques.
À l'époque, mais... je comprends pas du tout, oui. Et moi-même, okay, je rentre là-dedans parce que okay, je comprends bah pas, oui, et que ça me fait rire, et que c'est mes amis, et ouais, que ouais, je les aime, et que c'est okay, cool. Et puis en fait, il m'a fallu des années après avoir un peu coupé le cordon et être quand même en lien avec elle et eux et pouvoir passer à d'autres choses pour revenir vers eux et capter les trucs et voir que eux-mêmes ont évolué entre temps parce que le monde évolue et tout mm-hmm, ça. Mais indépendamment de ça, donc je grandis avec des gens hyper politisés. Je me rends compte dans le tourbus ou dans le bus en tournée que ils peuvent parler des mêmes sujets, être du même bord, à savoir de gauche, avoir les mêmes idées, mais pas être d'accord.
Ouais.
Et ça, c'est chambé. Parce que je me dis, putain, mais c'est génial, moi, ma passion du débat est surnourrie, tu vois, donc je kiffe ma race. Et puis en les écoutant, j'apprends. J'apprends vachement de choses, j'apprends, je vois comment chacun construit un discours, je vois comment l'autre a structuré sa pensée, je vois comment l'une ou l'un a réfléchi, comment en recevant cet argument-là, il ou elle arrive à rebondir par rapport à ce qu'il avait avancé juste avant. Enfin voilà, ça me construit vraiment. Et en fait, forcément, ça éveille chez moi une sensibilité à ce qu'on appelle la politique, mais que, en fait, tu vois, Christiane Taubira, elle appelle ça notre intranquillité, ce que je trouve trop beau. C'est, en fait, dans quelle mesure je suis citoyenne et dans quelle mesure je suis concernée par le monde que je traverse. Pour moi, c'est ça, en fait. Et les gens appellent ça la politique. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que quand on dit politique, les gens pensent aux personnes,
oui,
politiques.
On pense aux hommes politiques.
Ouais, et là, c'est compliqué parce que, du coup, non, la question de la politique, c'est comment faire société,
c'est
en
la
fait.
Société, oui.
C'est
oui,
juste ça, tu vois. Et oui, moi, je me sens concernée par notre société, par les gens qui la font, par les gens qui l'habitent, et tout ça. Et voilà. Et donc, à ces speeches, déjà, je suis vraiment sensibilisée. Et puis, en plus de ça, je suis avec des artistes qui, en fonction des sujets de société qu'ils trouvent dans le journal, vont en faire des chefs-d'œuvre.
Et oui. Oui, bah oui, carrément. Les
donc en plus, je me dis, putain, mais en fait, l'histoire de qu'il a lu dans Libé au charbon, il y a deux matins avant d'aller prendre le bus, ou qu'elle a lu sur toutes ces cultures au Pakistan et sur la manière dont elles sont revendues ici, cette histoire horrible et cette chaîne de l'enfer. Le mec en a fait un chef-d'œuvre, mais genre un chef-d'œuvre, mais pour le dénoncer.
Mmh.
Enfin,
oui, oui.
Tu sais, il y a un truc de.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ok, on va mettre de la lumière et de la beauté sur l'horreur, mais pour dire qu'elle existe en fait, pas pour dire la 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 la, mm-hmm, tu vois. Et je me dis putain, mais moi c'est comme ça que je veux créer en fait. C'est cet angle-là, et parce que pour moi ça a été un privilège de rencontrer très jeune des gens qui créaient elle et eux de cette manière-là en fait. Et je me suis dit putain, mais j'ai le droit de faire ça en fait. Donc, si tu veux, très vite, j'ai été presque formée, malgré eux et malgré moi, à cette construction-là. En même temps, ça a été une arme, parce que très vite, du coup, c'est devenu ma manière de survivre à la violence des choses. Parce que quand même, pardon, hein, mais entre-temps, le 13 novembre, Trump, Nuit debout, toute la période justement avec Sarkozy au pouvoir, etc. Oui, c'était quand sûr, même d'une violence quand t'es jeune, quand t'es femme, quand t'es arabe. Enfin, en fait, ça fait une décennie que tous les trimestres, il y a un avant-après, en fait.
Vraiment,
tu vois.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Vraiment, le fait de savoir que j'avais cette arme-là, c'était vraiment l'endroit pour moi d'exorciser tout ça et justement de ne pas péter un câble face à la violence de ce que je ressentais et de ce que je recevais, en fait. Il y a une manière assez inconsciente, je pense, que cette chose a eu d'infuser ma vie, mon œuvre, ma création, tout ça. J'ai quand même dit ma vie, mon œuvre.
Pardon. Camélia, ma vie, mon œuvre.
Ma vie, mon œuvre, ma création, terminé, bonsoir. Quelle angoisse. Après, il y a eu toute une phase, il y a eu quand même MeToo.
Ouais.
J'ai pris conscience d'énormément de choses, et de choses que j'avais vécues, et des choses que j'avais subies, et des choses que j'avais vues, et des choses que j'avais tolérées. et des choses que j'avais acceptées. Enfin, en fait, ça a été une espèce d'immense tarte dans la gueule. Et ça m'a vachement sensibilisée, ça m'a vachement donné envie de, bah, comme on fait en fait, tu vois, de m'instruire et de comprendre et de m'éduquer. Ouais. Et de dire, ok,
d'en parler.
En fait, là, voilà. Bah, alors, avant d'en parler,
oui, d'abord de comprendre.
Il y a eu d'abord l'envie de comprendre, de genre, attends,
ouais.
Comment moi j'ai pu subir ça, moi. Tu sais, c'est vraiment dans Guerre et Paix, quoi. Quand il va se faire tuer, il dit, mais pas moi, tu vois, c'est même pas moi à la fin, quoi. Et ben, je me dis, mais comment moi, avec ma famille, avec mon éducation, avec mon cerveau, avec ma sensibilité, j'ai subi ça. Je ne suis même pas au courant que j'ai subi ça. C'est quoi ce monde en fait là ? Il y a un truc, c'est pas possible. Et en fait,
ça c'est pendant
là,
le confinement qu'il se passe ça ? En mode ça, thérapie accélérée.
Ça
quoi.
A été vraiment un truc progressif. C'est vraiment avec MeToo en fait.
Ouais ouais bah oui.
C'est vraiment avec MeToo. Je me suis entendue faire un aveu à quelqu'un dans une soirée mondaine et j'étais genre.
Ouais. Ah bah MeToo ça a infusé dans tellement
une
de.
Dinguerie. Et moi, de j'avais cerveau, des potes qui avaient des révélations pendant plusieurs semaines, toutes les semaines. J'avais plusieurs potes qui venaient qui disaient bah en fait j'ai vécu ça, bah en fait j'ai vécu ça, bah en fait je suis victime de ça. Mais non-stop, vraiment, où on était toutes et tous d'ailleurs
à réfléchir,
à se dire
à
genre mais en fait,
à ce qu'on a subi ou à ce qu'on a fait. Ouais.
Et donc j'avoue que cette prise de conscience, elle a été genre archi, elle a été violente, mais en fait c'est pas ça qui m'a le, c'est pas ça qui a été le plus intense. C'est pas la violence, c'est en fait la claque que ça m'a mis dans le sens où ça m'a ouvert les yeux sur un monde dans lequel je vivais depuis gamine et en plus depuis mes CESPICH dans ce monde-là, tu vois, et où j'étais genre
et
non,
que
mais
tu
là,
laissais faire
contre,
quoi.
C'est pas possible, tu vois. Et de là, du coup, j'étais en mode ok, bah là, en fait, on y va. Là, tu vas te concentrer, tu vas lire des putains de bouquins toute ta vie, tu vas lire des femmes, tu vas lire des essais, tu vas lire des théories, tu vas lire des pensées de gens avec lesquels t'es d'accord, de gens avec lesquels t'es pas d'accord, tu vas comprendre comment les gens pensent, tu vas essayer de t'instruire et tu vas essayer de l'intégrer, déjà pour te réparer dans un premier temps, et ensuite pour essayer de te restructurer, de te construire, en fait, de te restructurer et de réapprendre, en fait, de désapprendre, de te déconstruire et de te reconstruire, quoi, clairement.
Oui, bah oui.
Et en fait, suite à ça, si tu veux, alors ça passe par des lectures, ça passe évidemment par des thérapies que je faisais déjà depuis des années, mais là, avec du coup des prises de conscience folles qui font que bah, du coup, tu vas tailler dans le gras direct.
T'orientes davantage le
sujet.
Voilà,
beaucoup plus. Et en fait, entre ça, les rencontres, le travail sur ton cerveau, l'époque, les prises de position des gens.
Ça me rend ouf là. Ça me rend ouf parce que je sais où ça va. Et ça me rend
tu
ouf
vois
parce que ça va à. Quand tu te retrouves à en parler avec des gens, ils sont débiles et ils vont juste te reprocher des trucs alors que eux, jamais ils se sont posés 5 minutes, jamais ils ont lu,
non.
Jamais ils ont écouté,
non.
Jamais ils se sont demandé et ils vont te dire que toi tu
que
dis
tu
la
te
merde.
Trompes. Mais tu sais que c'est justement parce
je peux tout
que.
Tout casser là.
Oui, oui, mais ça rend ouf. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le fait de nous être instruites qui fait qu'on a la foi. Justement, dans ce qu'on va raconter, en fait. On sait de quoi on parle. C'est pas, on n'est pas en train de vous dire.
C'est pour ça, ça doit être. C'est insoutenable, en fait, d'imaginer que derrière, on t'a dit.
Le nombre de fois où ça nous arrive de savoir de quoi on parle, parce qu'on s'est renseigné, parce qu'on a pris le temps, même de lire des statistiques, d'avoir des preuves à vous mettre sous les yeux. Mais là, on le voit récemment. Donc là, bon, quand on parle, il est déjà sorti il y a longtemps, ce fameux complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Mais pour que ça ouvre les yeux de tout le monde, il faut qu'il y ait des preuves en vidéo où les gens ne peuvent pas dire ah non, il a pas dit ça
et
parce que là
les
c'est
violences
très clair.
Policières.
Ouais,
oui,
il faut,
oui, mais
il faut que ce soit filmé.
Mais il y en a, encore.
Et encore, mais n'empêche que il faut que ce soit filmé
pour que les gens y croient.
Pour que les gens y croient, sinon en fait, c'est tu sais j'ai une pote qui est blanche et qui m'avait dit à l'époque de George Floyd parce que moi donc le virage en question
oui,
revenir,
oui, tu m'étonnes.
Mais le virage en question on le tourne le mercredi, c'est diffusé le samedi, le dimanche Cazeneuve me tag sur Twitter et me répond dans la nuit du dimanche au lundi George Floyd.
Ah, c'est
ouais, c'est ça qui s'est passé. Et le 2 juin du coup il y a la manif d'Assa.
Des Black Lives Matter. Oui. Ouais. Ok.
Et en fait tu vois c'est ça qui est ouf, c'est que tout s'est construit de manière hyper naturelle dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où je pense que moi-même j'ai tellement travaillé sur moi que j'ai travaillé sur mon identité, j'ai travaillé sur la structure de mon cerveau et il y a des choses que je n'ai plus laissé passer. Et en fait la raison du virage c'est uniquement parce que j'ai un auteur blanc en face de moi qui est en train de faire déjà un truc mais une dinguerie, qui dit c'est quand même de là d'où ça part cette histoire. C'est un mec qui voit une image d'aide-soignante en manif et qui dit cette phrase au sortir du confinement quand même, avec ces personnes qu'on applaudissait et qui derrière se prenaient je sais pas quoi en manif là, qui dit quand même une phrase qui est: de toute façon, les aides-soignantes aujourd'hui, c'est comme les flics avec le Bataclan. Avant, tout le monde les détestait. Maintenant, tout le monde les adore. Mmh. Alors, déjà, le parallèle, pourquoi, comment ? Pourquoi Bataclan, Covid ? Pourquoi, enfin, le 13 novembre, Covid ? Qui a détesté les aides-soignantes ?
Le rapport, il est douteux. Le...
Rien n'a de sens. Ouais. Mais quand bien même, on est à une heure de grande écoute, on est sur le service public, on sort de deux mois et demi de confinement avec des vidéos en boucle par des gens qui se faisaient attraper dans des conditions
déplorables,
mais catastrophiques, dans Paris. Je sais pas si vous vous rappelez, la mère et sa fille au marché dans le 17e, mais tout était... Et c'était même pas que les quartiers populaires. Et le mec annonce qu'aujourd'hui, tout le monde adore les flics.
Oui, c'est quand même...
Texto, genre détente. Et en plus, le problème, moi, les flics, par exemple, et ça a été ça, l'amalgame qui a été fait en plus derrière, c'est que moi, les flics, je ne les déteste pas.
Mais non, mais on ne déteste pas les individus, pas c'est le système qui
tout,
a à mettre en question.
Mais vraiment pas du tout.
Et en plus, c'est pas ce que tu as dit, c'est je me sens pas à l'aise devant...
Et justement, en fait, ce que je trouve problématique, c'est que ce que je disais chez Inter l'autre fois, c'est qu'en fait, la question qui gagne, ça devient est-ce qu'on est pour les violences policières ou contre les flics ? Mais en fait, la question, c'est pas ça. La question, c'est comment on aide les flics à travailler dans des conditions décentes pour que du coup, derrière, ils soient à même de recréer un lien et que les politiques soient à même de recréer un lien avec le peuple. Et tu sais que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui disait ça, un officiel, je ne sais plus, qui disait que l'Allemand, l'ancien préfet de Paris...
Didier, là ?
Didier l'Allemand, exactement.
Didier, là ?
Didier, là ? Didier !
On est écrire, Didier ! Hé, Didier !
Didier, le... Non, mais pour être sûr qu'on ne parle pas d'un Allemand lambda.
J'ai toujours l'impression que tu parles d'Alain Chabat quand tu dis Didier.
Ah, c'est vrai.
Didier l'Allemand. L'Allemand préfet a quand même dit à cet homme... Il disait qu'en gros, le ministère de l'Intérieur, et donc la police, les forces de l'ordre, en fait, n'étaient plus les forces de l'ordre, mais les forces de la sécurité de l'État. T'imagines la force de cette phrase? Et oui, c'est l'Allemand qui a dit ça.
Ah oui, non, mais
c'est l'Allemand, mais c'est ça, le mec qui a créé la BRAVEM. C'est assumé, c'est ok, c'est ça qu'on fait.
Les policiers servent les politiques.
Et du coup, c'est ça qui est délicat. C'est que, en fait, du coup, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a une telle attente de l'État envers les flics, envers la police, que du coup, il n'y a plus de place, en fait, pour le lien entre la police et le peuple, tu vois. Et l'erreur, elle est là. Il faut commencer par là, selon moi, tu vois. Mais pour répondre à ta question, quand même, pour ce qui est, du coup, de le virage en question, c'est juste qu'on sort du confinement et que moi, du coup, je me suis mangé tous mes meilleurs livres de ma life, tu vois, j'ai vu toutes ces vidéos horribles du confinement et qu'en fait, entre-temps, les amis, vous m'avez connu, j'avais 16 ans.
Ouais.
À 16 ans, t'es au lycée, t'as des couettes. Et puis, c'est les 16 ans de ma génération. C'est pas les 16 ans des petites d'aujourd'hui
TikTok,
qui sont au courant de tout le temps, H24 en clair. Plus, tu vois. Et donc, 16 piges, exactement, il n'y avait même pas Insta. On était sur Facebook.
Bah, il y avait rien, il y avait à peine Facebook.
Il y avait, c'était les débuts Facebook.
MSN.
Exactement, c'était MSN.
Et on se donnait pas les actus sur MSN.
On se whizait et on se poquait quand vraiment c'était la grosse tête. Et du coup... donc je suis passée de ça à je suis une femme arabe, française,
instruite,
d'origine algérienne, instruite et publique. Donc en fait forcément je pense qu'il y a des gens pour qui et puis en plus
c'est
trop. Truc où
il y a des gens pour qui c'est trop.
Oui, mais c'est trop parce que pendant une période j'étais vraiment dans un truc d'assimilation, c'était même plus de l'intégration, tu vois, c'était vraiment de l'assimilation jusqu'au moment où moi j'ai travaillé sur moi dans toute cette période, comme je vous disais, et de toute façon j'ai toujours travaillé sur moi, j'ai cette chance et ce privilège d'avoir grandi avec une mère thérapeute qui, du coup j'ai toujours eu une certaine sensibilité à ce qui se passe dans mon cerveau et essayer de le comprendre et checker avec moi-même si je suis ok avec ça ou pas. Mais du coup, le fait d'avoir eu cette période-là, ça a fait que au moment où tu te remets un peu en question et tu checkes même ton identité, tu vois, moi, l'air de rien, en fait, à 16 piges, j'étais qu'avec des personnes blanches à Paris, en train de faire de la musique, puis du cinéma.
Oui.
Et en fait, déjà, dans la manière dont j'ai grandi, les seules personnes arabes que je voyais, c'était ma famille. Donc déjà, rien que ça, en fait, il y a un moment où t'es genre... Oui, donc en fait, mon identité, elle est à l'intérieur, dans le foyer, et à l'extérieur, on est dans une vie blanche. Mmh. Et ça m'allait très bien, tu vois, et ça me va toujours, même si je suis très contente qu'aujourd'hui, elle ne soit plus que blanche, à l'extérieur aussi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a et de la blanchité et autre chose, mais du coup, à l'extérieur aussi. Et c'est un équilibre à faire, mais ça prend un temps, mais de malade, vraiment. Et en fait, ça veut dire que à partir du moment où, du coup, c'est comme tout. C'est comme quand tu choisis de finalement être dans des rapports amoureux, avec des relations non exclusives. En fait, il n'y a plus de machine arrière possible, tu vois. C'est plus possible.
Mais une fois que tu as appris, une fois que tu t'es déconstruit, c'est impossible.
C'est possible, tu vois. Ouais.
Non, non. Une fois que tu as déconstruit des trucs aussi importants, aussi deep, c'est impossible de revenir en arrière.
Quand tu as chaussé tes lunettes de woke,
ouais,
elles ne se déchaussent plus.
Ouais, c'est clair.
C'est tout simple. Impossible.
Ça ne marche pas. On ne peut plus faire marche arrière.
Raison oui, pour donc, laquelle. Ouais,
donc je comprends, du coup, finalement, quand toi tu prends la parole, c'est même pas c'est pas une volonté.
C'est juste hyper sincère.
C'est juste parce que c'est toi.
C'est sincère et spontané, exactement.
Et tu t'attends pas à ce retour de bâton.
Bah non, puisque moi, depuis que j'ai 16 ans, je dis ce que je suis sur les plateaux.
Et, ouais.
Et jusqu'à maintenant, ça a
tant
toujours
que
été
oui,
cute,
mais parce que tant que c'était gentil pour les Blancs. Enfin,
bah, tant que c'était
raccourci est nul.
En
mais
fait, tant que c'était pas un sujet, c'était un sujet. Ouais. Mais à partir du moment... En plus, à ce moment-là, parenthèse, mon single est numéro 1 depuis genre 6 semaines.
Fragile, non, c'est ça.
Facile, ouais.
Facile, pardon.
Et t'inquiète, et je suis à ce moment-là en promo non-stop. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, pendant le confinement, j'étais dans les artistes, je cite, ce qu'on nous disait, c'était les artistes qui doivent divertir les Français. Donc au lieu de faire des singles...
Un saltimbanque.
Voilà. Une bouffonne, hein, finalement. Bonjour.
Mon bon roi. Mon bon roi. Je vous divertis. Da, la, da, da. Je me lève, je fais face.
Et les bouffons du roi en dessous qui sont là. Oui, tant qu'elles nous divertissent, ça va. Mais par contre.
Et en fait, c'est ça.
Alors,
c'est
se plaint de la France.
Pendant le confinement. Mais en plus, je ne me plains.
Mais oui,
je ne me plains pas.
Mais c'est les raccourcis qui ont été faits. C'est si t'es pas contente.
C'est ça qui est
fou. Ça, c'est les.
Et tu vois, pendant le confinement, au lieu de faire des promos comme le reste du monde, à ce moment-là, comme le reste du monde, en fait, j'en suis à chanter en Zoom sur mon ordinateur sur le JT de France 2. Putain. Tu vois. Et en fait, je fais ça pendant plusieurs semaines. Et au moment de la première émission sortie de confinement, en fait, je suis là, je vais chanter ma chanson. Et en plus de ça, ce qui est ouf, c'est que pendant cette émission, si vous retombez dessus, je parle de tout. Mais de tout. Je parle d'intermittence, de féminisme, d'écologie, de violence policière. J'explique le concept de l'intermittence. Je parle des aides-soignants, je parle de tellement de choses. Et le truc qui a fait que ça a pété, c'est violence policière, parce que Cazeneuve m'a répondu sur Twitter et que c'est devenu nimp.
Bertrand ?
Non.
Et qui est là ?
Je cherche tous les prénoms.
Bernard,
ouais.
Bernard.
Nanar.
Bébert. Ah oui, non, mais de toute façon, ils choisissent bien ce qu'ils veulent retenir. Hein, les...
Non, mais c'est un vrai les sujet de se rendre compte que si moi je vais à la télé et que je dis que je dénonce les violences policières, bon, nous on est des grandes gueules féministes, mais passe encore. Mais putain, mais dès que c'est un noir ou
t'es
une arabe,
femme, t'es arabe, dire et ça. T'es numéro 1.
Et tu cartonnes,
mais
ça, donc ça veut dire, la France t'a accueilli à bras ouverts, t'as du succès chez nous.
Oui, c'est comme au Marseille.
Il y avait ça
quand
on
prend la parole.
Exactement.
Et surtout, t'es à une place de lumière.
Oui,
surtout t'as une place où t'as de la lumière sur toi et les gens vont venir voir ce que t'as à dire.
Mais donc quoi,
c'est Mbappé, genre. À chaque fois, il est attendu. Alors Mbappé, il a quelque chose à dire sur ça et t'es là, poteau.
Bah ouais.
Pourquoi vous attendez de lui qu'il dise quelque chose comme par hasard ? Pareil pour Omar Sy, pareil. Enfin, c'est des racistes, point en fait.
C'est des racistes qui attendent juste ce que tu disais, non pas l'intégration, mais une assimilation totale. Ouais.
Et quand bien même, parce que je peux dire que pour l'avoir fait,
oui, ça marche pas.
T'as toujours ta gueule.
Mais oui, voilà,
tu peux dire ce que tu veux, t'as toujours ta gueule. C'est-à-dire que moi, je suis quand même la première génération, quand on en parlait avec une pote il n'y a pas longtemps, je suis quand même la première génération à ne pas parler la langue de mes ancêtres. Je suis la première génération à ne pas passer de temps sur la terre de mes ancêtres. C'est-à-dire que mon sang, il est lié à une histoire que je n'ai pas, qui m'est à peine transmise et que je vais chercher, tu vois, que je gratte. Et que
S'intégrer.
Voilà. Mais je suis quand même la première génération. C'est-à-dire qu'Alice Zeniter, on en parlait dans La Déferlante, il faut quand même réaliser. Elle disait, moi, quand je fais un rendez-vous avec quand je vais voir ma grand-mère et qu'on se retrouve en famille, ma grand-mère dit quelque chose en arabe, mon père traduit, ma tante se marre et dit non, pas exactement, ma grand-mère répond, mon père se marre. Et puis, du coup, en fait, entre-temps, j'ai perdu. Enfin, c'est quand même ça aussi le tu vois ce que ça fait.
C'est une dissonance, une vraie
réunion familiale.
Quoi.
La communication, le lien, tu le bases sur quoi ? Tu vois ? Et en fait, il y a quand même ce truc où la seule chose, du coup, qui me reste d'arabe, en plus on dit arabe, c'est une erreur, c'est berbère, mais quand bien même, la seule chose qui me reste d'arabe, c'est ma gueule et mon nom.
Oui.
Et c'est déjà trop pour certains.
Mais c'est juste pour te dire que, exactement, en fait, quand bien même tu t'assimiles, tu as toujours ta gueule et tu as
puis
toujours.
Puis t'attends au tournant, c'est ça.
C'est tout.
Y a mais putain, mais ça, il est grand temps qu'ils se questionnent, mais ils le font pas. Hein, mais moi, il y a trop de trucs qui me donnent envie de tout casser, mais peut-être qu'ils vont faire un peu. Tu crois ?
Je pense que si. Ouais, je pense que si.
Bah écoute.
Pas les personnes qui sont contre.
Ouais.
Mais je pense que les personnes qui peuvent le faire vont commencer à le faire parce que de toute façon, ces gens vont vieillir et mourir un jour, tu vois. Et en fait, notre génération, elle le sait.
Du balai.
Non, mais tu vois, à un moment, et je ne souhaite la mort de personne, évidemment.
Oui, je le disais pas tout ça.
On a hâte de la prochaine génération.
Non, mais que ça tourne, quoi. De plus en plus, on va se retrouver avec des personnes jeunes qui sont. je ne crois pas, à part les personnes d'extrême droite et les personnes foncièrement racistes, je ne crois pas qu'il y ait des personnes de notre génération qui ne soient que entre personnes blanches toute leur vie. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, oui. En fait, l'histoire de la colonisation et de l'immigration dans notre pays est tellement dense,
c'est vrai.
Tellement dense, qu'en fait, il n'y a pas de cas où ta personne, que ce soit dans ton entourage professionnel, dans tes voisins, dans tes potes, dans tes amants, dans tes... ce que tu veux, que dans le monde extérieur, il n'y a pas de cas où tu n'es qu'entre personnes.
Ou alors c'est que c'est choisi, blanche. Et dans ce cas, effectivement,
oui,
c'est
si un fais problème. Partie, voilà, oui, sauf si
c'est toujours 3-4 groupuscules de FAF en France qui restent qu'entre blancs. Ça,
mais
c'est...
si, à moins que ce soit une volonté, je crois pas que c'est vrai que des gens kind of normaux qui ne sont pas focus sur la question de la couleur de peau des gens ne soient qu'entre personnes blanches, tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais en fait, du coup, parce que la réponse, elle est effectivement là. Elle est sur si dans votre vie, vous parlez avec des gens concernés par, issus de minorités ou concernés par des problématiques, par des discriminations, normalement, ça t'ouvre le cerveau.
Se pose pas trop, quoi, du coup.
Donc ça veut dire qu'eux, ils sont restés tellement entre eux, ils sont tellement pas posés ces questions-là, que quand tu leur dis, ça leur paraît aberrant au point que c'est toi la folle en face, quoi. Ouais. C'est un truc de ouf.
Les amis,
je suis navrée, mais parce que cette discussion est passionnante.
Mais on était sûr.
J'aimerais que ça dure des heures.
Normalement, dans notre podcast, on tire des petites
questions. Mais même sans les questions, j'aurais envie de ça.
Tu veux tirer une question ? Tout petit porteur.
Elle a tapé les pieds comme une petite fille. T'aurais totalement pu le faire, toi, juste.
Vraiment, s'il vous plaît.
Alors, allez,
j'ai trouvé ça tellement cute, je me suis dit.
Tu peux nous tirer une petite question ?
Une deep ou une chill ? On fait une de chaque.
Vas-y.
Je commence par la deep, comme ça on finit sur la deep. Ah, c'est trop mignon. À quand remonte la dernière fois que tu t'es sentie unique ?
C'est adorable.
C'est très mignon. La dernière fois que je me suis sentie unique... Putain, c'est pas facile comme question. Hein. Si, je sais. La dernière fois que je me suis sentie unique, c'est la dernière fois que les fachos m'ont fait un gros cyberharcèlement des fafas pour mon dernier. Des fafas, eh bien alors, ne peut pas être plus à propos, hein, finalement. des fafas.
Des fafas.
Des familles, des fafas. Pour la sortie de mon dernier film.
Tu t'es senti unique dans le sens seul ou dans le sens, il n'y a qu'à moi que ça... Enfin, ils sont vraiment sur mes côtes.
Alors, je ne me suis pas sentie seule parce que ce shitstorm-là a été... Bon, déjà, moi, j'ai travaillé dessus et du coup, par rapport à ce que ça a pu me faire à l'époque, c'était vraiment incomparable.
On parle du film avant que les flammes ne s'éteignent.
Voilà.
De Médifécrit, qui dénonce notamment les violences policières qui a subi un shitstorm de l'enfer de la part d'extrême droite et des FAF.
Qui se sont organisés pour mettre des mauvaises notes sur Allociné.
Et pour t'envoyer des messages.
Et pour me pourrir sur les réseaux partout. J'étais taguée dans plein de très belles stories pendant cette période. Et pas que. Et bref, et en fait.
Donc, tu t'es pas sentie seule.
Je me suis pas sentie seule parce que déjà, j'ai des amis formidables, dont Nadège Bosson-Diagne, qui du coup a pris soin de me baquer de ouf et d'être tellement une amie extraordinaire que j'aime tellement. Et en plus d'envoyer des mots à des personnes dont elle savait qu'elle pourrait se sentir concernée, d'être genre coucou, il se passe ça pour Camélia, n'hésite pas à faire une bise à l'occasion. Mmh. Et du coup, en fait, il y a eu, et dans le présent, et de manière numérique et virtuelle, beaucoup de soutien. Ce que j'ai trouvé très cool et ce qui en fait change tout, hein. En fait, si les gens manifestent leur soutien,
c'est pour ça qu'il faut contrebalancer, en fait, tout de suite, ça change à l'amour, bien
tout
sûr, bien
en
sûr.
Fait vraiment vraiment, pour l'avoir vécu, si vous avez des gens qui traversent ça, n'hésitez pas, les amis auditeurs auditrices, parce que ça change tout.
Envoyer de l'amour,
ouais. Et après, non, alors je me suis pas sentie unique à cet endroit-là, je me suis sentie unique dans le sens où c'était la première fois qu'il y avait un film sur les violences policières dont le personnage principal était une héroïne. Mmh. Et que je savais que pour m'être mangé le shitstorm que je m'étais mangé 3 ans avant, je savais par où passer pour cette fois-ci faire passer le message que je voulais pour les personnes de bonne foi.
Ah oui, donc c'est beau. Enfin, c'est une unicité positive, en fait.
Ouais, plutôt.
Ok, trop bien.
Après, oui, ça m'a pas empêché de me dire putain, allez, c'est reparti pour un tour.
Non, mais tu t'es dit, bien sûr. Finalement, enfin, j'allais dire, ça tombe bien. C'est entre gros guillemets, mais j'ai les épaules.
Un peu. Ouais. C'est un peu prétentieux, mais un peu.
Non, mais je vois.
C'est
malheureux, mais c'est bon.
Ouais. Parce que tu vois, le traitement dans les médias et tout ça, dans la même semaine, j'avais des potes qui sortaient des films, des potes blancs et blanches, et jamais on leur a demandé « Et alors vous, Israël-Palestine ?» Et moi, c'était ça à toutes les interviews, pratiquement, cet acabit. Donc c'était... en ça, c'était vraiment chaud. Et en ça, je me suis sentie unique, parce que je me suis dit « Putain, mais... » Donc en fait... Là, et il y a d'autres meufs racisées auxquelles on ne va pas poser la question. Et je sais pourquoi les gens viennent me la poser à moi. Et ça, j'avoue... Et à la fois, ça a été hyper dur quand même. Je ne vais pas vous mentir. De dire, ok, donc moi, je suis artiste et je dois parler de bébés juifs égorgés au lieu de juste parler de mon film, contrairement à genre
tous mes potes autres. Qui juste parlent de leur film et c'est cool, tu vois. Mais indépendamment de ça, ouais, c'était aussi... je me suis aussi dit, ok, bah écoute, en fait, ça fait partie de ta mission et de dans mille autres trucs, il y a ça. Et si tu dois te manger ça, c'est parce que... En fait,
c'est pour la bonne cause, entre
voilà,
guillemets.
Le cosmos sait que t'as les épaules pour le faire, donc go, quoi.
Ouais. Ah ouais, t'as affronté. Bon.
Mais je ressens guerrière. Un peu ça aussi. Ouais, enfin, ouais, nous, j'imagine. On peut ressentir un peu ouais, ça aussi. D'avoir, de me dire, en fait, je préfère que ce soit moi ou nous qui avons un peu les armes maintenant que ouais. quelqu'un qui va pas les avoir et que ça
c'est
va ça. Détruire. Donc,
c'est ça.
Ouais, ouais. Puis on sait pourquoi on le fait, quoi. Enfin, ouais, ce ouais, truc ouais. de se rappeler tout le temps ça, on sait pourquoi on le fait. Donc, ouais, voilà. Si ça vous plaît pas, c'est que ça doit être... Si ça plaît pas aux fachos, c'est que ça doit être la bonne direction.
Exactement.
Ouais.
Ça, c'est vraiment la ligne, ouais. finalement. Ouais. Franchement, dès que t'as une vague de fachos, t'es genre, ah, on dirait que je suis au bon endroit.
Oui, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Bon, vous me rappelez que je suis dans la bonne route, quoi.
Exactement. Ouais.
Alors attends, une petite question qui
t'aimes les surprises, j'adore les surprises.
T'aimes les surprises, c'est ça la
j'adore
question.
J'adore. Les... Ouais, c'est trop mignon.
Parce que toi t'aimes pas les surprises,
si.
Non
si, moi j'adore aussi, je suis pas du tout du genre à
toi,
vouloir
si ça va, mais j'ai
un
peu envie de savoir.
Imagine
quand
je te dis voilà, imagine je te dis j'ai une surprise pour toi. Moi par exemple, si on me dit ça, je dis OK, bah j'ai
trop hâte de
l'avoir, mais je supporte pas poser des questions parce que sinon je vais trouver. Comme je surréfléchis, je vais trouver et je vais être déçue ou je vais imaginer et ça va pas être ça. Donc je préfère je bloque mon cerveau, je dis bah allez, allez, quand tu me l'offriras, ça va être bien. Vous êtes comment ?
Cute.
Toi, t'es plus...
Moi, si... Bah,
pose des questions.
Moi, j'aime bien ne pas savoir qu'il y a une surprise, en fait. J'aime bien me manger la surprise.
Et
tu
donne la surprise directe. Mais
oui, c'est
j'ai une surprise pour toi, 6 ans.
Non, j'avoue, non. Ça, j'aime pas trop.
Oui, c'est vrai que c'est nul, d'ailleurs.
Ça, je suis genre,
oui,
non. En fait.
Tu verras, il y a une surprise ce week-end ?
Non, bah, je veux la savoir maintenant. Parce que je vais me poser la question jusqu'à ce week-end,
bah oui,
c'est quoi
coup, ouais. Oui, ça, non, toi, t'aimes pas les surprises, en fait.
Non, ouais, voilà.
Mais genre, sauf si on me surprend là, sur le...
Par exemple, oui,
le
fameux, sur
le vif. Le classique, la surprise, genre, on t'organise un anniversaire surprise.
On
et
m'a déjà fait un anniversaire surprise.
Et on fait surprise.
On m'a
fait. Vous aimez ça?
Bah, c'est... Moi, je suis vierge, donc j'ai un groupe WhatsApp et j'organise le truc avec le premier cercle, tu vois. Enfin...
Quel rapport avec tes vierges?
Ah bah, je suis vierge, le contrôle, la raison, la logique.
Ok, parce que je croyais que c'était la période où je croyais, bah, comme je suis dans septembre, tu sais.
Non, c'est juste que je suis vierge et du coup, je suis en contrôle et que genre. Je
oui, d'accord.
Les vierges sont genre les meilleurs cerveaux de la planète. Non, mais genre, c'est le principe des vierges, tu vois.
Oui.
Là, je bosse avec un nouveau partenaire qui m'a dit, qui est anglais. Et quand on a capté tous les deux qu'on était vierges, il m'a dit, oh my god, you're Virgo. Je lui ai dit, oui, are you? Il m'a dit, I'm sorry, we're the best. Et j'étais genre,
ouais.
Yeah.
Et vraiment, non, c'est hyper prétentieux et c'est vraiment pour la blague. Mais en vrai, non, les cerveaux des vierges, c'est très genre,
c'est carré.
L'organisation, c'est carré, ça bouge pas, c'est raison, c'est truc. Et donc en fait.
Et que Kiri.
Ouais. Et que du coup, bah en fait, si tu dois faire un anniversaire surprise, franchement, c'est pour me faire plaisir. Et si tu veux me faire plaisir, laisse-moi contrôler.
Ouais,
ouais d'accord.
Parce que
ouais.
du coup, ce sera que comme j'aime. Plutôt que faire des trucs où je vais être genre oh, on aurait pu faire ça, ça aurait été mieux.
J'aurais cru que ce serait
malgré moi, mon cerveau va y penser.
J'aurais cru que ce serait un trait de scorpion, tout ce que tu racontes, parce que je suis quand même un peu comme
baby,
ça.
Baby.
Contrôle fric, tout ça.
Bah ouais.
Mais en fait, on est tous contrôle fric ou quoi? Vous connaissez des gens qui disent oh, moi, j'aime pas du tout contrôler.
Non, mais.
Moi, je suis vraiment.
Non, mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas déter sur le contrôle.
Genre, moi, si on. Effectivement, si on m'organise un week-end ou une soirée, il faut que je foute mon nez dedans pour être sûr qu'on va faire des trucs bien, quoi. Ou si on m'organise un resto, je vais quand même aller checker c'est quoi le resto.
C'est sûr, je vais regarder le menu.
C'est sûr.
Certains, je regarde le menu.
Je l'aime de me dire, oh, je vous laisse en porter.
La lumière,
je regarde la note.
La lumière.
Non, mais la note, déjà.
Non, moi, je regarde pas les notes, j'aime pas.
Vous êtes.
Et la note du film.
Non, mais.
Non, j'avoue, je regarde pas les notes. Déjà, rien que les gens qui notent, déjà, je trouve que c'est un conseil. Je ne les juge pas, mais je n'arrive pas à faire ça.
Ça aide, en fait.
En fait, la vérité,
sœur, c'est
dire...
ça. Passion. Elle a un compte certifié Google,
ouais,
parce qu'elle l'a tort. Non, mais tu sais, elle reçoit des mails genre bravo, grâce à vous, vous avez aidé tant de gens, qu'on consultait vos critiques. C'est ça,
God.
Passion. Non, mais c'est bien.
Je n'ai jamais mis une seule note, mais le
mais
seul
plus,
avantage
sur Uber et tout,
pour
ça
qu'elle...
me stresse.
Je suis d'accord, mais le seul endroit où je trouve ça intéressant, c'est le médical. Vraiment, je trouve ça intéressant de consulter des notes sur le médical, parce que si vraiment un mec, un gynéco, a que des notes de moi, il tripote un peu par-ci par-là.
Bah, oui,
effectivement. Oui, là, effectivement,
tu vois,
effectivement.
Ouais.
Avant qu'on se quitte, on a encore un tout petit temps pour se faire les petites recommandations. Alors,
le petit top
on
flop
est en
culture.
Janvier, donc le petit top flop culture. S'il y a quelque chose que tu as vu, lu, un truc que tu as envie de mettre en avant, tu as parlé de Benjamin Sixou tout à l'heure, mais voilà, ça peut être un album, un film, une série, ce que tu veux.
Un
si
livre,
tu veux,
une expo,
commencer, comme ça tu as le temps d'y réfléchir un petit peu.
J'ai vu un film très très beau, qui je pense va être nommé partout au César cette année, très réussi, qui s'appelle Le règne animal de Thomas Caillet.
Ouais.
Okay. Ça avait l'air trop bien,
absolument,
je suis verte de l'avoir loupé. Bon, par contre,
réussi.
On est le 8 janvier là, donc il passe plus au cinéma.
Il est plus au cinéma, mais je pense qu'il sera en VOD bientôt, et c'est magnifique. C'est un film très réussi avec un vrai pari.
Avec Romain.
Dans la forme, avec Romain Duris, avec Paul
Kircher.
Ouais. Et c'est très 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 bien. C'est
une ode à l'animalité, à la nature, à la remise en question, à l'amour, au féminin. Enfin, c'est vraiment magnifique.
Et à l'acceptation, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle avec, justement, le racisme dans le film, je trouve.
Ah ouais, aussi. Tu peux faire un parallèle avec n'importe quelle personne, en fait, n'importe quelle minorité, n'importe quel être qui est rejeté par la société, en fait.
Une nouvelle... la mutation, bizarre, quoi. Un nouveau peuple, des hybrides qui apparaissent. Ouais. Et du coup, tu as vraiment, dans les autres, dans les, entre guillemets, normaux, ce qui ne veut rien dire, mais il y a ceux qui acceptent et ceux qui ont peur. Exactement. Et j'ai trouvé que c'était assez flagrant dans
la
métaphore, un peu genre, vous avez peur de l'inconnu.
Ouais.
Pour aucune raison.
Et puis, du coup, le chemin du personnage de Romain Duris, c'est magnifique quand même, entre... ce qu'il raconte et la manière qu'il a eu de le gérer avec la mère et à la fin comment il le gère avec le fils, c'est genre
c'est l'histoire d'un monde dans lequel les humains, il y a certains humains qui développent une mutation et qui se transforment en animaux mutants un peu. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu ça le contexte.
C'est ouf.
Et c'est vrai que c'est un bon film.
C'est magnifique. Et en musique, en ce moment, j'écoute pas mal de musique traditionnelle algérienne. J'écoute encore et toujours Rosalia. Ah bah le dernier album de James Blake. Playing Robots into Heaven, un trésor.
Allez, mettez-vous ça dans les petites oreilles.
Ça peut être doux, ça.
Ouais.
Moi, j'ai un conseil. Je pense qu'elle va être prolongée, donc je vous conseille d'aller voir le spectacle de Noémie Delattre au théâtre. Elle joue au Mathurin. Son spectacle s'appelle L'harmonie des genres. Et Noémie Delattre, j'imagine, si vous nous connaissez, probablement vous la connaissez. C'est une femme qu'on adore, qui est très engagée, très féministe. Et ce qui est très cool dans son spectacle, elle a, je ne sais pas quel âge elle a, mais j'imagine à peu près 45 ans. Et donc, dans son spectacle, ça démarre et ça y va franchement sur l'antipatriarcat, mais genre franco de porc, voilà. Et
Franco de Gérard.
Franco de Gégé.
Et du coup, ça y va.
Oh mon dieu, t'as fait un jeu de mots dans une vidéo cette semaine. My god, je meurs.
Quand j'ai glissé sur le lard.
Oui. Oui, une tranche de Gégé. C'est ça que t'as dit.
Oui.
C'était fou.
C'était excellent.
C'était fou.
Donc oui, donc elle démonte vraiment le patriarcat. Et en même temps, il y a aussi toute une partie où elle questionne son rapport à l'hétéronormativité, l'hétérosexualité, en étant une femme qui déplore la médiocrité des hommes, de certains hommes, des hommes quoi. Et en même temps, de les aimer profondément. Et je trouve que, pour faire le parallèle, là où pour moi Florence Foresti s'est plantée royalement dans son dernier spectacle, Boys, 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 qui était pour moi en fait
boomer et misogyne,
malheureusement.
Oh, wow.
Alors qu'on l'adore, c'est la queen de l'humour normalement. Bah là pour moi, dans le message, elle s'est plantée fort.
Mince.
Là où Noémie Delattre, elle embrasse hyper bien ce paradoxe qui est de j'aime les hommes mais j'aime pas les hommes. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. En plus, il y a plein de musique, donc si vous aimez un peu l'aspect musical, je vous le conseille fortement. Et s'il vous plaît, avant que les flammes ne s'éteignent, on va le télécharger fort, parce qu'au cinéma, il a été un peu enterré, donc je pense que le 8 janvier, il passera plus. Non. Mais vraiment, vraiment, voyez-le. Moi, j'ai adoré le film. J'ai fait que pleurer.
Ah, trop bien.
Il sera sur Netflix.
Ouais, Netflix, OCS. Ouais.
Voilà. En janvier, dès qu'il sort quelque part, vraiment, voyez-le. Il est très, très bien. Oui. Vraiment, c'est très touchant. Et c'est terrible à dire, mais oui, c'est utile. Genre, c'est important de le voir. Ouais. Et moi, j'ai pleuré. J'adore pleurer devant les films, donc j'étais contente.
C'est cool. Et moi, je vous reco, petite série rapido qui s'appelle Blue Eye Samurai sur Netflix. Il y a une saison. J'ai trop hâte de la deuxième. JPP, comment je vais faire pour attendre. J'en ai déjà marre. C'est un animé japonais. C'est un animé, ça se passe au Japon, mais c'est une série américaine, donc je sais pas qui l'a dessiné. Ah ouais, bon, pardon. En tout cas, ça a été écrit par un couple, un mec et une meuf. Voilà, et je vous fais le synopsis parce que je saurais pas l'expliquer comme d'habitude. Au Japon, en 1633, Mizu, un samouraï, est considéré comme un étranger en raison de ses yeux bleus perçants. Il entreprend un voyage pour se venger. C'est la fin du synopsis.
Et c'est de la guerre et tout.
C'est un peu la guerre, c'est un peu... Il y a grave des combats au sabre. Ouais, parce que c'est hyper...
Elle a les yeux écarquillés, la bouche bée.
Ouais, voilà, faut me voir ma tête. C'est haletant. C'est haletant, c'est très, très série. À chaque fin d'épisode... Non, mais j'étais vraiment là, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série comme ça où, il est minuit, j'ai envie de dormir, et c'est le dernier épisode, et je suis là, non, il faut encore celui d'après. Il y a trop de climax à la fin de chaque épisode et tout. Les dessins sont trop beaux. Moi, j'adore les animés japonais, c'est trop
stylé.
Voilà, je vous recommande ça, c'est chambé.
Eh bien, merci beaucoup, Camélia, d'être venue. On est tellement contentes. On avait trop hâte de discuter en vrai avec toi.
Trop bien, merci. Je suis trop contente. Et bravo pour tout ce que vous faites. Et merci.
Tout pareil.
On
s'aime trop. À bientôt, les amis.
Merci.
Bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine.
On se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro. Merci, bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.